VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est midi à Niamey. Bonjour à tous. Le vice-président des Comores et candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ali Swahili, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche avec 17,61% des voix selon des résultats provisoires annoncés dans la nuit de mardi à mercredi par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Monsieur Swahili devance Mouigny Baraka, gouverneur de l'île de la Grande Comore, qui rassemble, lui, 15,09% des voix, et le colonel Azali Assoumani qui obtient 14,96% des suffrages. Ces trois candidats sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 10 avril prochain. Au Niger, les résultats de la présidentielle continuent de tomber au compte-gouttes. L'opposition nigérienne a déjà annoncé qu'elle ne va pas reconnaître les résultats qu'elle qualifie de fantaisistes. Notre envoyé spécial Nicolas Pinault sur place nous en dit davantage.
Oui, c'est un processus lent et difficile. Un peu plus de 15% des résultats connus ce matin sur la présidentielle. 50 communes sur les 308 de cette élection présidentielle. Le taux de participation s'établit à 67,13%. Ce sont les chiffres provisoires de la Commission électorale nationale indépendante qui publie ces chiffres au compte-gouttes. Évidemment, cela alimente la suspicion. Ce matin, la tendance est la même. Le président sortant Mahamadou Issoufou est en tête avec 33,78% des suffrages. Deuxième, Ama Amadou, 26,38% des voix. Troisième position pour Seyni Oumarou, le président du MNSD. Nassara, la tendance est la même. Depuis 24 heures, ce sont ces trois candidats qui arrivent sur le podium de cette élection. Mais évidemment, il reste encore beaucoup de résultats à parvenir. Espérons pour les Nigériens qui attendent évidemment la publication des résultats provisoires globaux que cette journée de mercredi sera la bonne. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, Human Rights Watch demande au gouvernement de mettre fin à la répression visant des opposants politiques présumés. L'Organisation américaine de défense des droits de l'homme dénonce, entre autres, les arrestations arbitraires dont ont été l'objet 9 jeunes en marge de la journée ville morte organisée le 16 février par les opposants à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Eddie Isango.
Manifester pacifiquement n'est pas un crime et les autorités congolaises devraient immédiatement libérer toutes les personnes injustement arrêtées sous des accusations fallacieuses, indique Human Rights Watch dans un communiqué publié hier. L'Organisation de défense des droits de l'homme fustige l'arrestation à Goma et à Kinshasa des 8 jeunes membres du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, basé à Goma. Pour Human Rights Watch, les chefs d'accusation portés à l'encontre de ce jeune semble être politiquement motivé. L'ONG les qualifie de fabriqués de toutes pièces. Kinshasa accuse pour sa part l'ONG américaine d'immixtion dans un dossier judiciaire, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende à l'AFP. L'appel lancé par des opposants pour une ville morte le 16 février avait été largement suivi à Kinshasa et partiellement dans d'autres provinces. L'opposition et les activistes mettent la pression sur le président Joseph Kabila afin qu'il respecte les délais constitutionnels en organisant les élections avant novembre sans s'y représenter pour un troisième mandat.
Et le dossier de ce journal, l'opposition burundaise en exil a dénoncé hier une fausse ouverture après l'annonce par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le chef de l'ONU venu au Burundi pour tenter de trouver une issue à la grave crise politique qui frappe ce pays depuis près de 10 mois, avait fait annoncer un changement positif du président burundais Pierre Nkurunziza. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Dar es Salaam en Tanzanie Hussein Rajabu, leader d'une faction du CNDD-FDD, le parti au pouvoir à Bujumbura.
Cette suggestion de Ban Ki-moon n'est pas la première. C'est une suggestion qui succède aux autres provenant de l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres coins du monde. Donc pour nous, c'est une très bonne suggestion. Et malheureusement, c'est lui qui devrait faire un bon geste pour que cette suggestion puisse apporter des fruits. C'est bel et bien Pierre Nkurunziza. Et malheureusement pour lui, chaque fois, tantôt il accepte, tantôt il renie à ce qu'il avait déjà accepté. Donc ce n'est pas pour la première fois, seulement cette fois-ci, il y a une très grande intensité de pression et nous pensons que Nkurunziza va se courber devant cette suggestion et surtout devant d'autres pressions qui vont suivre.
Le président Nkurunziza, aux dernières nouvelles, a accordé une grâce présidentielle à un certain nombre de détenus. Avant cela, il avait fait lever le mandat d'arrêt contre certains exilés burundais. Est-ce que ce ne sont pas là des gestes de bonne volonté?
Écoutez, je conjecture des amours. Ce n'est pas un geste de bonne volonté, mais c'est surtout un geste de pouvoir manipuler la communauté internationale. Dans ce décret, il montre que ceux accusés d'atteinte à la sûreté de l'État ne sont pas inclus parmi ceux qui devront être graciés. Alors ceux-là, ce sont des politiciens.
Quelle est la situation aujourd'hui au sein de l'opposition? On a l'impression qu'elle aussi est divisée en différents groupes.
Normalement, l'opposition, on peut dire qu'il y a des ambitions qui suivent cette ligne directrice de pouvoir arrêter la violence dans le pays. Et ces ambitions-là, ce sont des ambitions de positionnement, mais l'opposition est en train de se concerter. Et d'ailleurs, pour le moment, ils se rassemblent pour pouvoir faire des réunions de 2 ou 3 jours. Par là, je parle du Sénat. On sent très bien que ces différents vont être mis à l'écart. Et sinon, pour toute l'opposition, maintenant, on pense comment arrêter la violence, comment mettre à terme ces violences qui sont en dehors les Burundais et comment pouvoir participer au dialogue inclusif.
Hussein Rajabu, le leader d'une faction du CNDD et FDD, joint à Dar es Salaam en Tanzanie. En Afrique du Sud, la chambre basse du Parlement a adopté un projet de loi qui ressemble à un premier pas vers la réforme agraire pour redresser les disparités sociales, raciales, pardon, dans l'appropriation des terres. Eric Manirakiza.
La question de la terre reste sensible en Afrique du Sud, 22 ans après l'apartheid. La chambre basse du Parlement a adopté hier un projet de loi permettant au gouvernement d'acheter la terre en fixant son prix et au besoin en expropriant dans l'intérêt public. Pour devenir une loi, ce projet doit d'abord être approuvé par le Sénat, puis promulgué par le président Jacob Zuma. Il s'approche d'une réforme agraire, mais se différencie des expropriations forcées comme au Zimbabwe. Les partis d'opposition et les gros fermiers blancs l'ont dénoncé, mais pour l'ANC au pouvoir, c'est le moyen de rendre équitable l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Depuis 1994, près de 8 millions d'hectares ont été transférés à des fermiers noirs, ce qui représente à peine 8 à 10% des terres détenues par des blancs. La plupart des fermes subissent la pire des sécheresses jamais vécues depuis au moins un siècle.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le milliardaire américain Donald Trump a conforté son avance dans la course à l'investiture républicaine. C'était hier avec une large victoire dans le Nevada face à ses rivaux Marco Rubio et Ted Cruz. Sa troisième victoire d'affilée donc. Donald Trump avait déjà remporté les scrutins en Caroline du Sud et dans le New Hampshire, seul l'Iowa, lui, ayant échappé pour l'instant, remporté par le sénateur texan Ted Cruz. Le résultat était encore serré pour la deuxième place. D'hier nuit, le média américain donnait le sénateur Marco Rubio à 25% et Cruz autour de 20%. Près de 55 millions d'Iraniens sont appelés à voter vendredi aux premières élections depuis l'accord nucléaire de juillet 2015 et sur lequel le président modéré Hassan Rouhani entend capitaliser pour renforcer son assise face aux conservateurs. Les Iraniens doivent renouveler les membres du Parlement et de l'Assemblée des experts, des religieux chargés de nommer et de remplacer au besoin le guide suprême, deux instances actuellement dominées par les conservateurs. Les Boliviens ont tranché. Le président Evo Morales ne pourra pas briguer un quatrième mandat, sa réforme ayant été rejetée par référendum. Le non l'aura finalement emporté. Evo Morales, premier président amérindien de Bolivie, devra renoncer au pouvoir en 2020. Le soutien populaire dont il jouissait, notamment pour ses succès économiques et sa lutte contre la pauvreté, ayant été écorné par des scandales de corruption. Et puis pour finir, Séoul a balayé aujourd'hui les avertissements de Pékin américain sur le déploiement d'un bouclier antimissile américain en Corée du Sud, soulignant qu'il s'agissait de faire face aux menaces croissantes émanant de la Corée du Nord. La Chine est farouchement opposée au déploiement du missile anti-américain qu'elle considère comme une menace pour sa propre dissuasion nucléaire. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.